Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois avec nos chroniqueurs, désormais attitrés, ces chroniqueurs en deux mots et ces chroniqueuses en deux mots aussi, qui se sont levés à l'aube, ou presque, pour vous proposer leurs réflexions, leurs sensations, les réactions que suscite en eux ce simple mot « aube », puisque c'est le thème choisi en commun pour ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Alors pour commencer, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy-Paré, qui nous propose, selon son habitude, son regard à la fois lucide et tendre, mais aussi plein d'empathie pour un jeune homme à l'aube de sa vie, mais qui, comme tant d'autres, ne verra peut-être pas d'autres jours se lever.
Pleine lune sur les falaises, pleine lune sur la grève, pleine lune sur les heures à venir. Il est allongé, là, comme tant d'autres, ses compagnons de misère, sur une plage inhospitalière, dans un vague duvet qui devrait le protéger du froid, du vent glacial, de la pluie. Il sommeille, il ne peut pas dormir, il ne veut pas dormir, il tremble, il grelotte, il a peur. Minuit sonne au clocher du bourg voisin, encore quelques heures avant l'aube. À l'aube, quand une faible lueur éclairera l'horizon, il partira vers l'inconnu, vers l'avenir tant espéré, attente fébrile. Aube d'un nouveau jour, aube d'une nouvelle vie. Au point du jour, un hypothétique canot l'emmènera peut-être vers un hypothétique paradis, celui dont il rêve, peut-être vers le salut, vers la vraie vie. N'aura-t-il pas attendu en vain jusqu'à l'aube? Il repassera le film des heures, des jours, des mois qui ont précédé l'ultime étape d'un si long voyage. C'est toujours à l'aube qu'il fallait partir, à l'aube que semblait s'ouvrir une nouvelle page de son existence. Jusqu'alors, malgré la solitude, les angoisses et la peur viscérale qui le torturaient, il a toujours résisté et franchi les murailles insurmontables. Il revoit sa vie, là-bas, dans ces contrées lointaines, déjà presque effacées de sa mémoire. L'aube blanchissait les montagnes de son Afrique natale. Il revoit tous ceux qui sont restés là-bas. Il pense à ceux qui, comme lui, ont osé. Que sont-ils devenus? Il s'en allait avec son troupeau, comme son père, comme son grand-père, comme ses pères. C'était hier. Il était peut-être heureux. Il était à l'aube de sa vie. Quel était son avenir? Rester? Partir? Émigrer? Demain, à l'aube, il se lèvera. Il repliera son duvet. Il attendra, plein d'espoir, comme tous les autres, ses compagnons de fortune ou d'infortune, un passeur vénal qui les conduira peut-être là-bas, tout là-bas, de l'autre côté, malgré les risques. Demain, à l'aube, sera-t-il condamné à mort par les caprices de la mer, ou bien sera-t-il promis à un avenir meilleur? Demain, à l'aube.
Merci Michel pour ce rappel des espoirs et des drames qui se jouent chaque matin à l'aube pour ceux et celles qui rêvent, malgré tous les risques, comme tu le dis, d'un hypothétique paradis. Merci également à Michel, sans E, pour l'enregistrement depuis votre belle côte méditerranéenne. Michel, avec un E, on te retrouve le mois prochain quand tu auras de nouveau fait naître un nouveau récit lumière sur l'aube d'une page blanche. Un premier extrait musical. Une chanson de Louane intitulée « L'aube ».
L'aube se peint en reflet d'eau, sidienne, les nuées caressent mes peurs anciennes. Je demeure sur le sable des regrets, laissant s'envoler l'ombre de nos attraits. Ah, un soupir se perd dans le vent des adieux, embrassant l'infini d'un cœur silencieux. Je vogue en écho. écho entre ombre et lumière, effaçant ton nom, scellant notre mystère. Ah, 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 ah. Tu as rompu nos liens, écho dans le vent. Je souris aux blessures que le temps étend. Je sculpte mes rêves dans l'écume du temps, laissant nos ombres s'évanouir en vent. Ah, un soupir se perd dans le vent des âges.
IDFM 98FM.
L'aube, notre thème d'aujourd'hui, loin des meurtrissures des humains, est également ce moment, aussi instable que merveilleux, d'où se dégage parfois une impression qui va bouleverser le monde de l'art, comme nous le rappelle Nicolas Martin, artiste lui-même et notre chroniqueur spécialisé dans l'univers de la peinture.
Hiver 1872, il est 7h35. C'est le petit matin. Dans sa chambre d'hôtel située sur le grand quai au Havre, le peintre attend le moment parfait. Il ne cherche pas à représenter un paysage. Il veut retenir un instant figé, un moment, aussi précis que fragile, aussi instable que merveilleux. Celui où la nuit, non encore disparue, est gagnée par un jour qui n'est pas encore vraiment là. Le tableau est petit, presque modeste. Rien d'imposant ni de démonstratif, mais un format qui oblige à s'approcher, à entrer dans la peinture plutôt qu'à la contempler à distance. Ce dénuement n'est pas le fruit du hasard. Claude Monet veut peindre vite, avec peu de moyens, et devant ce motif, il revient plusieurs jours de suite, toujours à la même heure, toujours dans cette lumière incertaine. La palette est resserrée et réduite à l'essentiel. Des bleus froids, des gris liquides, une pointe d'huile de térébenthine pour délayer et couvrir rapidement. Quelques touches orangées, presque irréelles, pour le soleil qui embrase déjà les nuages d'altitude. Rien n'est mélangé sur la palette, il faut aller vite. La couleur est posée à même la toile écrue. Les coups de pinceau sont délayés et visibles, amples ou presque nerveux, et trahissent l'urgence de capter le fugitif et de fixer le mouvement de l'exécution. À y regarder de plus près, la brume est la véritable matière du tableau. Elle ne recouvre pas le port, elle l'enveloppe, absorbant la lumière incidente dans une texture mate, recherchée et conservée encore aujourd'hui, selon les souhaits de l'artiste. Les bateaux apparaissent comme des silhouettes flottantes, à peine ancrées dans l'eau. Les mâts se perdent dans l'air. Le ciel et la mer se confondent. Le soleil n'éclaire pas, il flotte en équilibre. Il n'organise pas l'espace, il indique simplement que quelque chose s'apprête à recommencer. La barque et son pêcheur, au premier plan, tout relatif, apportent la profondeur du tableau et viennent répondre au reflet du soleil qui danse sur l'eau froissée. Monet se passe de tout ce qui n'est pas nécessaire. Pas de détails descriptifs, pas de narration, pas d'anecdotes portuaires, seulement des formes minimales, presque abstraites. Comme si, à l'aube, le monde acceptait d'être réduit à quelques signes fondamentaux. Il n'essaie pas de fixer la lumière pour l'éternité. Il accepte qu'elle lui échappe. Il la peint précisément parce qu'elle va disparaître. Impression, Soleil levant est un tableau de passage qui se tient en équilibre sur un seuil. Ni nuit, ni jour, ni forme, ni dissolution complète. Monet ne célèbre pas le monde. Il l'accompagne dans son apparition provisoire. Il ne peut qu'accepter l'inachèvement, puisque tel est son sujet. Et, ce faisant, il dépose à ce moment précis, et sur cette toile, le manifeste du courant impressionniste. Le nom du tableau fut donné par un critique d'art qui, jugeant que ce dernier n'offrait qu'une vague impression, voulait ainsi s'en moquer. Ce terme, choisi pour disqualifier, deviendra pourtant le nom même du mouvement, assumant pleinement cette esthétique du provisoire, du fugitif et de l'inachevé. Et ce tableau, né de la répétition quotidienne du geste, se lever tôt, reprendre place, peindre avant que la lumière ne disparaisse, rappelle une démarche intérieure et coutumière de Monet, qui proposera nombre de séries sur un motif choisi, faisant varier la palette au gré des jours, des heures, des minutes, et revenant inlassablement avec acharnement devant le même sujet. Peindre devenant un acte nécessaire. Tant que Monet peut y revenir, à cette aube mille fois semblable sans être jamais la même, tant qu'il peut peindre ce moment suspendu, incertain, à la frontière de l'existence, quelque chose tient encore. Lui qui a voulu un jour peindre l'épaisseur de l'air y parvient presque ici. La brume, la couleur et le geste répété deviennent une manière de rester au monde. Et l'on pense alors à cette autre aube, chez Victor Hugo, celle qui advient lorsque le sens de la vie a disparu avec l'être aimé, et à laquelle il faudra accepter de renaître chaque matin sans savoir si l'on existe encore. « Et le jour sera pour moi comme la nuit », disait le poète. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas pour ce rappel de l'importance de ce tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, exposé au musée Marmottan. Et merci également pour cette référence délicate à ce poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, dédié à sa fille Léopoldine, disparue tragiquement avec son mari quelques jours après leur union.
IDFM, 98FM.
Voilà, si l'aurore aux doigts de rose, fille du matin, a inspiré Claude Monet, comme nous l'a rappelé Nicolas, eh bien Marine, notre illustratrice freelance et écologiste, l'affirme, la naissance d'une image peut se comparer à l'aube.
Dans la nuit, à marcher sous la voie lactée qui embrasse encore le ciel nocturne, le monde, presque effacé, tout en nuances de bleu nuit et de noir encore profond, n'est qu'un tâtonnement, une ébauche, des masses indistinctes, et le corps prend à l'aveugle les chemins, tente de deviner autour de lui ce qui se dessine, les lignes qui s'échappent à son regard, les collines sombres qui découpent la nuit. Le dessin, lui aussi, suit cette évolution. Au début, il n'existe pas encore, mais il est bien là. Dans un coin de la mémoire, dans la nuit de l'imagination, embryon au cœur de sa voie lactée. Il est en gestation prudente. Et puis l'artiste prend son crayon et à grands traits trace les premières ébauches. On n'a qu'une vague idée de ce qui nous attend. On ne sait pas encore où aller. Il fait encore trop sombre. Et puis, soudain, une pâle lueur apparaît à l'horizon. La voie lactée se décale. Une sorte d'orange incandescent se lève timidement au loin, tandis que le bleu se dégrade doucement. Les premières lumières teintent le paysage. Elles effacent doucement les premières couches de nuit. Sur le papier, l'artiste commence à ébaucher plus franchement son dessin. Il affirme des traits, commence à apporter du relief. Dans le ciel, l'aube marque le recul de la nuit, le début du jour. Les dernières étoiles restent suspendues vaillamment, éclats vifs pour quelques brefs instants encore. Le randonneur, lui, marche dans le sommeil, son corps épouse l'aube, les traits encore indistincts de son environnement. Il est dans un entre-deux, comme l'aube. Pas tout à fait réveillé, et pourtant dans un rêve éveillé. L'aube est une rêverie pour dormeurs debout. L'artiste aussi oscille dans cet état d'esprit, un esprit qui n'est pas encore tout à fait certain de ce qu'il voit. Il est juste dans le ressenti, la présence, l'intuition. Comme le randonneur qui devine plus qu'il ne voit le paysage autour de lui. L'aube devient plus grande et colore le ciel d'un jaune lumineux, éclatant, pur. La beauté de l'aube se dévoile au-dessus de la mer de nuages, des montagnes qui se drapent de rouge et de orange. Au bas de leur sommet, les lacs scintillent et les ombres bleuissent. Le dessin marque un tournant sur sa page. Les premières couleurs se posent, les reliefs s'accusent, on sent en devenir l'illustration future. L'aurore prend le pas sur l'aube, et le soleil se dévoile, aspergeant d'or les vallées et les pentes, la brume scintille. Le monde se réveille dans un flamboiement majestueux. L'illustration se précise, les couleurs deviennent plus franches, on arrive à voir le chemin que prend l'artiste. l'illustration prend sa place, mue, se déploie. Et comme le monde va devenir de plus en plus lumineux et clair pour le randonneur, l'illustration va mûrir au fil du temps, se préciser encore plus, affermir son identité. Quand l'artiste posera la dernière touche finale, il repensera à ce long cheminement qui s'est décidé dans la nuit de son esprit et qui a pris son temps pour naître. Il repensera au songe qui l'a amené là, à cette transe que l'on ne connaît qu'à l'aube, quand le corps encore mal dégourdi flotte sur le monde, entre deux espaces-temps. Il repensera à sa lumière, soudain, qui lui est apparue pour donner corps et vie à son œuvre, à cette aube qui l'a aidé à se mouvoir sur ce chemin, à lui montrer la voie, et à le laisser ensuite, en toute confiance, auréolé de lumière pour poursuivre sa route.
Merci Marine pour cet hommage à l'aube qui, comme tu l'écris si bien, aide l'artiste à se mouvoir sur le chemin de la création, à lui montrer la voie et la lumière, comme tu l'as dit avec tant de poésie. Marine, tu nous rappelles comment prendre connaissance de ton travail, dont la nature et l'aube est la source principale d'inspiration.
Oui, sur mon site internet www.marinegauvin.com, Gauvin, G-A-U-V-A-I-N, comme le chevalier Gauvin de la table ronde. Et vous pouvez aussi suivre mes aventures sur ma newsletter, le lien est dans mon site internet.
Marine, on te retrouve également le mois prochain, mais sur la page de nos podcasts, avec les croquis de nos invités que tu effectues en direct au cours de nos émissions.
Oui, tout à fait.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
On retrouve maintenant dans ce rendez-vous compte celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties. Je veux parler bien sûr de Hélène. Hélène Souhaud qui nous présente, comme chaque mois, son œil du psy. Alors Hélène, qu'est-ce que l'aube évoque pour la psychothérapeute que tu es et qui, si j'ai bien compris, ne dort que d'un œil?
L'aube me fait penser à l'insomnie. La nuit est le moment de la confrontation avec l'angoisse. 30 à 50% des adultes présentent des troubles du sommeil en France. Il arrive que ce soit la raison principale de la consultation chez le psy, mais c'est plus souvent quelque chose qui arrive au second plan, vécu comme un symptôme, pas comme le problème principal. Une patiente, consultant à l'occasion d'un deuil terriblement douloureux, avait mentionné en passant qu'elle dormait très mal depuis toujours. Au cours de la thérapie, elle s'est réappropriée ses besoins, ses émotions, son espace intérieur. Elle a constaté avec surprise que son sommeil s'était considérablement amélioré, même si ce n'était pas le premier objectif recherché.
Donc il y a des méthodes efficaces pour lutter contre l'insomnie.
Lutter, combattre, vouloir contrôler, c'est le contraire du sommeil. Dormir, c'est justement accepter de lâcher prise. Les somnifères sont bien évidemment largement prescrits dans notre pays, champion de la consommation de psychotropes. Comme le dit le journaliste Franz-Olivier Gisbert, qui est un grand insomniaque, il y a les insomniaques avec médicaments et les insomniaques sans médicaments. Il montre ainsi que la fragilité du sommeil demeure, même si on croit la juguler chimiquement. La thérapie analytique, telle que je la pratique, va chercher les causes, travailler sur l'origine de l'angoisse. En donnant du sens à son parcours de vie, les symptômes envahissants s'estompent, le sommeil gagne en qualité. L'approche cognitivo-comportementale, ou TCC, va s'attacher aux rituels, aux actions, à occuper le cerveau pour éviter qu'il ne tourne en boucle. On peut par exemple apprendre à pratiquer l'auto-hypnose. On n'est pas très loin de la bonne vieille méthode consistant à compter les moutons. Il existe des situations où l'insomnie émane d'un contexte bien spécifique. Le syndrome d'avance de phase de sommeil, APS, pousse à se réveiller entre 2 et 5 heures du matin, avant l'aube, et du coup à se coucher également très tôt. C'est rare, une personne sur 300 en est atteinte. En revanche, se réveiller à l'aube est extrêmement fréquent quand on approche les 80 ans.
Mais alors dormir la nuit en fait, est-ce que c'est vraiment obligatoire Hélène?
Du point de vue de la santé, oui, c'est plutôt mieux. Les métiers de la nuit diminuent l'espérance de vie, et encore plus quand le travail impose des changements fréquents d'horaire, obligeant le corps à s'adapter à chaque fois, comme quand on fait les 3-8 en alternance. Et ça devient de plus en plus difficile à encaisser avec l'âge. Ça, c'est pour la réalité objective. En revanche, du côté de la poésie, de la création, de la liberté, c'est une autre histoire. La muse est souvent un compagnon nocturne qui visite les artistes pendant que les autres dorment. Si la nuit est le moment de l'angoisse, elle est aussi celui de la transgression, des grandes décisions, des idées qui changent le monde. Prenons mon cas, par exemple. J'ai toujours eu un sommeil fragile. C'est mon premier signal d'alerte en cas de stress, mais aussi en cas de créativité. Avant, associée à un contexte professionnel confusément douloureux, une insomnie tournait pour moi très vite au cauchemar. Je ne vais pas y arriver, les élèves vont me sentir fatiguée, affaiblie, je vais faire des bêtises. Tout ça tournant en boucle dans ma tête une partie de la nuit dans un cercle visqueux assez effrayant. Aujourd'hui, je suis thérapeute et écrivain, ma perception a changé. Je voyais l'insomnie comme un grave problème psychiatrique, un risque de chute dans la dépression, dans l'incapacité à travailler. Je la vois désormais comme un simple trait de personnalité, un peu atypique certes, mais pas inquiétant. Ma bonne nature reprendra toujours le dessus. Être fraîche et disponible pour recevoir mes patients, même en ayant peu dormi, ça n'a jamais été un problème. Pendant une heure, je ferme toutes mes préoccupations et je consacre tous mes neurones disponibles à la personne que j'accompagne. Aujourd'hui, j'ai encore des insomnies. Je tombe souvent du lit à 4 ou 5 heures du matin, surtout quand j'ai un livre en cours d'écriture. J'ai une organisation nocturne qui me permet d'attraper sans bruit et sans lumière des vêtements chauds pour glisser de la chaleur du lit à l'ordinateur sans attraper de pneumonie. J'apprécie ce temps calme où la maison dort pendant que moi, j'écris tranquillement. J'aime ce temps hors du tumulte, devant mon écran, en tête à tête avec les mots pendant que le jour se lève. Et je peux alors dire avec Rimbaud, j'ai embrassé l'aube d'été.
Ah, voilà. Merci Hélène pour nous avoir expliqué que tu embrasses souvent l'aube d'été comme Rimbaud. Rimbaud, dont Thierry Leclerc, comédien, compositeur et chanteur, nous interprète avec toute la poésie qu'il mérite ce poème issu des Illuminations et qui a pour titre, devinez, Aube.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Nous sommes toujours bien à l'écoute de ce rendez-vous conte spécial. Aube. Alors, si Marine et Thierry ont embrassé l'aube d'été avec un respect mêlé d'enthousiasme, c'est tout le contraire pour Gérard Pouettre, célèbre auteur des non moins célèbres chroniques de son chat Moritz, qui inflige une leçon de modestie à notre chère Aube, qui était, je le rappelle quand même Gérard, une déesse dans la mythologie grecque.
Je me suis vraiment demandé comment évoquer l'aube sans contrefaire ce qui a déjà été dit par les grands poètes, Ronsard, Rimbaud, Hugo, et sans en rester à de fades banalités. Comment parler de cette lueur qui apparaît tous les matins depuis la nuit des temps? Si l'aube disparaissait, cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de réveil, donc plus de vie sur Terre. Elle est indispensable, mais elle ne doit pas oublier qu'elle n'est qu'une composante du système solaire. Elle n'est qu'une transition entre la nuit noire et le lever du soleil, au même titre que le crépuscule est une transition entre le coucher du soleil et la nuit noire. J'ai donc pris le parti de relativiser cet engouement pour l'aube dans un petit slam. Moi, si j'étais l'aube, je me la jouerais modeste. C'est un peu de la daube de se prendre pour une déesse. D'accord, ton nom est poétique, il plaît aux romantiques. C'est sûr que crépuscule semble un peu ridicule. Et puis on t'attribue tout un tas de vertus. Mais est-ce bien mérité d'être autant vanté? L'avenir serait à ceux qui se lèvent tôt. Mais souvent, ils ont un dur boulot. C'est vrai, l'aube sur la mer, c'est beau. Mais c'est pas pareil dans le métro. C'est vrai qu'à l'aube s'éveillent les nids, mais aussi les oiseaux de Roissy. C'est vrai qu'à la sortie du lit peuvent naître de grandes utopies, mais déjà la douche froide rafraîchit les bravades. Même si tu sors d'un rêve, c'était qu'une petite trêve. Le jour est prosaïque. Il y a toujours un hic. Moi, je suis plutôt du soir. C'est lui qui rime avec espoir, même si on craint la nuit noire. Les dernières lueurs ont une saveur qui réchauffe les cœurs. Tout semble les opposer. L'aube est souvent précipitée. Du crépuscule naît la sérénité. Mais ils sont main dans la main, même si la nuit les contraint. C'est à nous de regarder en l'air pour admirer leur duo, plutôt que regarder par terre, au ras du caniveau.
Bon, Gérard, je ne te dis pas vraiment merci pour avoir ainsi obscurci le rayonnement de l'aube au profit du soir qui rime avec espoir. Mais bon, on sera quand même néanmoins heureux de te retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique qui ne sera pas comme celle-ci, au ras du caniveau. Bon, Gérard, comment est-ce qu'on peut prendre connaissance de tes autres productions textuelles et chronicales ?
Il y aura une conférence le 15 février avec deux autres auteurs de Saint-Leu. Donc c'est un dimanche après-midi où nous pourrons tous les trois, donc je peux citer les deux autres, Brice Nadin et Philippe Di Maria.
Voilà.
Voilà. Nous serons tous les trois donc à la Salle des Arts Créatifs à Saint-Leu pour voilà, faire une petite conférence et puis présenter nos travaux passés et actuels.
Voilà, et puis il faut signaler qu'on retrouve tes chroniques régulièrement dans le journal de François, de notre ami François Jeannin.
Absolument.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bon, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique qui a pour thème ce mois-ci l'aube. Et nous avons le plaisir de retrouver, comme chaque mois désormais, Victoria, étudiante en sciences de l'éducation. Ouais. Hélas, pour notre thème, Victoria, tu nous fais part d'une mauvaise nouvelle.
À part pour aller travailler, personne ne se lève à l'aube chez les jeunes. Soit on dort jusqu'à 11 heures minimum, soit on doit se faire violence pour aller travailler. Ce qui est marrant, c'est de voir à quel point notre relation au temps a évolué à travers l'histoire. Quand il fallait s'occuper de sa petite ferme, c'était normal de se lever à l'aube, voire même plus tôt. Aujourd'hui, pour les jeunes, souvent, ce n'est que la fin de la journée, le moment où tu rentres de boîte et que tu croises les autres membres de ta famille qui vont bosser. Ce qui est étrange avec l'aube, c'est que normalement, ça paraît long. Le soleil ne se lève pas d'un coup. Et pourtant, je trouve les journées plus longues quand je n'ai pas à me lever à l'aube, précisément parce que je ne travaille pas à ce moment-là. De toute façon, plus on est jeune, plus on a un rapport pourri au temps, je trouve. On a l'habitude de regarder des vidéos en accéléré x2, de calculer tout pour avoir le bon transport au bon moment, il suffit juste de regarder sur Internet. Enfin bref, on n'est plus habitué à attendre. La technologie nous a habitués à l'immédiateté. Mais l'aube est là pour nous rappeler que dans la nature, les choses se font doucement. Et ironiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune et qu'on voit le soleil se lever? On le prend en photo et on le met sur les réseaux sociaux dans une story qui va durer que quelques secondes, alors que le vrai lever de soleil, lui, a duré une heure, voire plus. Après, j'avoue, je suis un peu de mauvaise foi. Beaucoup de jeunes se lèvent à l'aube, notamment pour aller faire du sport, vu que les salles de muscu sont très à la mode en ce moment. Mais comme il faut bien aller travailler pour payer le loyer, beaucoup se lèvent plus tôt pour aller soulever des poids. J'ai envie de terminer cette chronique en rappelant à quel point c'est important de suivre le rythme du soleil pour un bon sommeil. C'est prouvé scientifiquement que vivre la nuit est très mauvais pour la santé. Ça augmente les risques de cancer. Enfin bref, on n'est pas fait pour ça. Petite anecdote, quand mon frère a fait ses études d'infirmier, il a travaillé de nuit pendant quelques semaines. Au départ, il a adoré. Le rythme de travail était beaucoup plus calme, donc beaucoup plus supportable. Mais très vite, même en dormant la journée, ses jours de repos sont devenus un enfer. Il était toujours très fatigué et résultat, il n'aime plus travailler la nuit. En tant que jeune fille qui a fait 3 ans de prépa, déjà je ne suis pas peu fière de reconnaître quand quelqu'un pique du nez. Et je peux vous dire que quand je préparais mes cols de philo jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, le lendemain, tout allait bien. J'étais en grande forme, comme si tout mon corps était là en train de dire « On s'est donné pour cette colle, maintenant on va tout déchirer ». Par contre, j'étais toujours très fatiguée le surlendemain. C'est là où j'ai eu du mal à me réveiller. Que ce soit le lever du soleil, mon réveil ou mon chat qui miaule, impossible de me réveiller. Quand on est jeune, on est beaucoup plus résistant au manque de sommeil, mais c'est souvent un leurre parce que ça peut être très dangereux. Mon copain a failli mourir dans un accident de voiture parce qu'il roulait la nuit avec ses amis. Pourtant, pendant les pauses pipi sur les aires d'autoroute, tout le monde semblait en pleine forme. Morale de l'histoire, il faut faire attention au sommeil à tout âge.
Voilà, merci Victoria pour cette leçon de sagesse et pour cette nouvelle chronique qui, je le sais, ne sera pas une aube sans lendemain, puisqu'on te retrouvera le mois prochain pour nous éclairer sur les comportements de ces êtres curieux, les jeunes. Ainsi se termine notre rendez-vous conte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème de l'aube. Une émission à retrouver en podcast, bien sûr, sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Nicolas, Thierry, Gérard, Hélène, Marine et Victoria. On vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Rendez-vous compte.